multi-alignement. Malheureusement, on est aligné comme, comme le petit capot est aligné à son chef de la mafia, c'est-à-dire le grand Uncle Sam.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être une fois de plus au rendez-vous rieur du Gai Savoir. Chaque après-midi, zoom zoom zen, c'est deux heures pour mieux comprendre notre époque en analysant ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, alors que l'échiquier des relations internationales ressemble à la table basse de Manon Mariani au lendemain d'une soirée tequila paf road to Mexico, il nous a paru intéressant de zoomer sur un positionnement qui peut permettre à un État de tirer son épingle du jeu. En géopolitique, vous connaissiez le principe du non-alignement, zoom aujourd'hui sur le principe du multi-alignement. Ces pays qui, aux alliances ou aux cavaliers seuls, préfèrent les alliances de circonstances, au cas par cas, une forme de diplomatie opportuniste, plus pragmatique qu'idéologique, avec cette idée du bon sens, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On dit que c'est en Inde que le concept est né, moi je postule que c'est plutôt du côté d'Alençon. Au cœur du bocage normand, c'est là en tout cas, les historiens de la pensée sont d'accord là-dessus, qu'est venu au monde le 14 octobre 1991, ressenti 1962,
Je suis né le 20 octobre.
Oui, bah, on m'a donné mauvaise information.
C'est moi, désolé.
Excuse-moi, à vous.
Vous pourriez me connaître.
Celui qui allait devenir le symbole du multi-alignement audiovisuel. Quentin, lui, dans son ouvrage référence sur le sujet, son autobiographie « Une vie d'opportunisme » de Willy Rovelli à Mathieu Noël, « Comment je les ai tous niqués », explique les vertus du multi-alignement dans le milieu professionnel. Comment il s'est servi de Rovelli sur France Bleu comme notre tremplin vers Radio France pour mieux le laisser tomber au moment où je lui proposais de rejoindre Inter, avant évidemment de me planter un couteau dans le dos assassin à l'été 2025 pour non pas rejoindre Nagui, mais remplacer Nagui à la présentation de la bande originale. Un move qui n'aurait pas été possible si Quentin n'avait pas en amont passé des accords quadrilatéraux avec le directeur des programmes d'Inter, Sybille Veil, Adèle Vendrève et Jean-Louis, un ancien employé de chez Speedy qui, moyennant trois caisses de pétillant Charles Vollner, avait accepté de sectionner les câbles de frein de la Porsche de Nagui. Comme quoi oui, dans la jungle audiovisuelle, le multi-alignement ça paye, mais qu'en est-il sur la scène internationale? Face à la bascule que nous vivons, est-ce le bon moment de se désaligner pour se multi-aligner? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Delphine Alès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes chercheuse en sciences politiques et vice-présidente de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Si on vous a invité, c'est que cette idée du multi-alignement est actuellement mise en pratique par un pays que vous connaissez bien, l'Inde. Vous allez nous expliquer ça. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Je suis né le 20 octobre.
Mais bon, vous m'avez compris.
Oui, bon, excuse-moi, je me suis trompée de 6 jours.
Oui, et Nagui a une Tesla. Moins facile pour les freins.
Tesla, c'est pas le moment d'avoir une Tesla.
Faut boycotter.
Oui, attention Nagui. À vos côtés Delphine, la première chose que vous avez remarqué, c'est évidemment l'odeur. Tiens, c'est moi où ça sent la beuh dans ce studio. Puis vous avez croisé le regard de la jeune femme assise à côté de vous, vous avez noté les pupilles anormalement dilatées et plus globalement l'air absent de cette personne au sourire figé dans une forme de quasi-béatitude. Et vous avez compris, quelqu'un a passé le week-end à Amsterdam. Alors, belle ville Manon ?
Très belle ville, je suis allée visiter la maison d'Anne Frank.
C'est vrai ? Voilà. Ah oui d'accord, et le Space Cake c'était avant ou après ?
J'ai pas manger de space cake.
Bizarre. Aucun respect, même pour les endroits historiques comme ça, c'est terrible. Tout à l'heure, Manon, vous nous direz qui suivre pour aller plus loin sur notre sujet du jour.
Et le prince héritier d'Arabie Saoudite qu'on connaît sous ses trois initiales et qui utilise de plus en plus la pratique du multi-alignement dans son pays.
MBS aussi, donc.
MBS.
Face à vous, Delphine, il me trahira à la première occasion, c'est clair. Néanmoins, à force de rater ses entretiens d'embauche, ses options, ça me nuise. Après sa bourde journalistique devant Nagui, quand il avait confondu Simone Garnier avec une autre speakerine, lui fermant les portes de la bande originale, jeudi dernier, il a gravement compromis ses chances de rejoindre un jour le groupe Publicis en expliquant les yeux dans les yeux à Maurice Lévy qu'au fond, il était un peu comme Trump.
Quel regard vous portez sur Donald Trump ? Vous n'êtes pas si différent. C'est un homme d'affaires.
Merci. Non, c'est sympa.
Alors finalement, je pense que vous allez rester avec moi, Quentin.
Ça me va.
Ça vous va ?
Moi, je vous aime beaucoup.
Mais c'était une bonne question. Hein.
Maurice, il n'a pas aimé cette question. Hein. Quentin. Bah... Oui, mais.
Voilà, Maurice, quoi.
Oui, c'est les questions qui déstabilisent. C'est ça votre marque de fabrique. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion du jour. Alors, le multi-alignement, ils en avaient déjà entendu parler.
Certains se souvenaient du non-alignement, du fameux bloc ouest, bloc est, forcément. Mais alors, le multi, non. En revanche, sans avoir le mot, tout le monde voit bien de quoi on parle aujourd'hui. Et l'actu m'a bien aidé, j'avoue.
Bah, Trump, c'est un malade, de toute façon. C'est un malade mental, ce type-là.
Vos réactions dans la prochaine demi-heure pour ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, des négociations qui durent depuis plus de 20 ans. Des négociateurs qui sortent de réunion dans le même état que Manon est rentré de son week-end à Amsterdam. Le quiz sera consacré aux petits secrets de fabrication des grands traités internationaux. Juste avant 17h, la maman débordée la plus célèbre de France, Marine Leonardi, nous rejoindra. Mais d'abord, Delphine Alès, ce multi-alignement, est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce que c'est le nom qui est juste nouveau en fait ?
Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est le fait d'avoir une politique internationale à la fois pragmatique, opportuniste et de multiplier les partenariats. C'est aussi vieux que la diplomatie. Ce qui est en revanche nouveau, c'est d'en faire un concept et c'est le fait de revendiquer finalement un non-choix politique comme le cœur d'une politique étrangère. Là, on peut considérer qu'il y a une nouveauté depuis la fin de la guerre froide qui s'est développée, déployée dans les années 2000 et qui prend une place beaucoup plus importante, notamment depuis la guerre en Ukraine et l'émergence de la notion contestable de Sud global.
C'était quand même plus simple dans ma jeunesse, il y avait les ricains d'un côté, les cocos de l'autre, on ne se faisait pas des nœuds au ciboulot. Ainsi parlait Cyril Lacarrière avant de s'envoyer son café calva du matin. Cyril, racontez-nous, vous qui avez tout vu, tout connu, l'Indochine, la baie des cochons, tout ça, ce multi-alignement, d'où ça sort ?
Faut-il choisir un camp ? Et si on avait plusieurs camps, c'est en Inde que cette idée a émergé. D'abord, sous la férule de son premier ministre, Nehru qui a été au pouvoir durant 17 ans. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit déjà de s'extraire de la logique des blocs et de ne pas se retrouver coincé dans l'affrontement, on a commencé à le dire, Ouest contre Est, États-Unis contre URSS. Et ce refus de l'alignement, ça va d'abord s'appeler être non-aligné. Au moins, c'est simple, on sait que vous ne faites partie d'aucune équipe, au moins officiellement. Tout ça sera théorisé et formalisé lors de la conférence de Bandung en 1955, conférence dont l'Inde est à l'origine. Il faut se souvenir que le pays, alors, n'est indépendant que depuis 5 ans. Il a donc aussi besoin d'affirmer sa liberté.
Et puis au fil du temps, ce non-alignement, il va évoluer.
C'est ce qui s'appelle le pragmatisme, bonbon de l'aile. Faire du business également. Plutôt que choisir un camp ou de n'en choisir aucun, l'Inde va choisir ses alliés en fonction des situations et de ce qui lui est profitable. Un exemple. L'Inde est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés de la Russie et de la Chine. Cela lui permet de renforcer sa coopération avec ces deux pays. Et elle collabore aussi avec les États-Unis, le Japon et l'Australie pour des questions de sécurité en Indo-Pacifique au sein du dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ce qu'on appelle le Quad. L'Inde a même acheté 26 avions Rafale à la France il y a 2 ans. Merci l'Inde plutôt que les États-Unis. Alors, quels sont les avantages à être multi-aligné ? Comment se débrouiller pour conserver cette liberté ? Est-ce que c'est vraiment un gage d'indépendance ? La France pourrait-elle l'être ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Si j'écoute le petit topo historique de Cyril, ça veut juste dire que le non-alignement est devenu un peu le multi-alignement aujourd'hui. On est passé de l'un à l'autre, ou il y a encore des pays non-alignés tout simplement aujourd'hui ?
Alors, beaucoup de pays qui faisaient partie des premiers non-alignés, effectivement, aujourd'hui se revendiquent d'une politique étrangère dite multi-alignée, sous des qualificatifs divers. C'est pas toujours cette notion qui est reprise. Je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur la dimension historique que vous évoquez. C'est vrai que l'Inde faisait partie des inspirateurs du non-alignement aux côtés d'autres. À la conférence de Bandung qui se passait en Indonésie, il y avait 29 représentants, soit de gouvernement, soit de mouvements indépendantistes en passe de devenir indépendants. Et donc, on avait à côté de Nehru, Sukarno, Sékou Touré, Nkrumah, côté Lawala et bien d'autres. Et ce qui était vraiment important pour eux à l'époque et ce qui marque sans doute une différence très importante avec le multi-alignement d'aujourd'hui, c'est que le non-alignement avait une dimension idéologique. Il y avait une idée du non-alignement, il y avait un projet pour le système international qui était un projet universaliste, là où aujourd'hui on est plutôt, on l'évoquait tout à l'heure, dans un refus du politique et dans un refus de la prise de parti. Ce n'était pas le cas des non-alignés en 1955 et encore dans les années 60.
Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette dimension idéologique du tout. C'est du pur pragmatisme, c'est de la réelle politique en fait.
Oui, alors le contexte a changé. On était en pleine guerre froide, les idéologies étaient prévalentes. Aujourd'hui, ce qui prévaut sur la scène internationale, c'est plutôt les intérêts à la fois sécuritaires et économiques. Les acteurs ont changé. Également, on était dans les années 50-60 avec des États ou des mouvements qui se voulaient non alignés, qui étaient dans un contexte qui était celui de l'acquisition de leur indépendance. Et ce qu'ils revendiquaient, contrairement à aujourd'hui, c'était l'égalité sur la scène internationale. Ils revendiquaient tout simplement la mise en œuvre des promesses du système international, la souveraineté, le fait de pouvoir participer à la construction du système international. Et je crois que c'est vraiment très important pour comprendre la différence entre le non-alignement de l'époque et le multi-alignement aujourd'hui. À l'époque, encore une fois, ce qu'ils demandaient, c'était la construction d'un système international post-colonial inclusif. Aujourd'hui, les multi-alignés ont en quelque sorte intégré le fait que nous sommes dans un système international qui est hiérarchique, pour être multi-aligné, il faut accepter sa position de second, finalement. Là où, quand on demandait à être non-aligné, on refusait l'oligarchie, en quelque sorte, du système international piloté par les deux grandes puissances dans le contexte de la guerre froide, alors qu'aujourd'hui, les multi-alignés sont des puissances moyennes.
Quentin, tant que vous ne comparez pas l'invité à Donald Trump, je vous donne la parole.
Non, pas du tout, mais c'est uniquement la fin de la guerre froide qui oblige à ce repositionnement, ou pas seulement, où il y a eu d'autres facteurs?
La fin de la guerre froide a contraint les États anciennement non alignés à faire évoluer leur rhétorique. Et donc, il a fallu qu'ils réinventent le concept tout en le conservant, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est un concept qui avait une très forte résonance, qui est toujours resté au cœur de leur discours de politique étrangère, indépendamment d'ailleurs des changements d'alliance ou du moins de choix internationaux. L'Indonésie a évolué, comme l'Inde, entre les années 50 et les années 90, en s'alignant à certains moments plus sur l'Union soviétique et à d'autres plutôt sur les États-Unis. Néanmoins, le concept de non-alignement est toujours resté, donc il a bien fallu le mettre à jour dans un contexte où on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, puis à une unipolarité imparfaite.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pas d'allégeance ou de soutien automatique, on y va au cas par cas. Zoom cet après-midi sur le principe géopolitique du multi-alignement avec notre invitée Delphine Alès, vice-présidente de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Delphine, quels sont les pays, on a parlé de l'Inde beaucoup, mais quels sont les pays qui mettent en place cette doctrine? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment identifiables, identifiés?
Alors d'abord, pour être capable de mettre en place cette doctrine, il y a un certain nombre de critères à rassembler. Il faut en avoir les moyens. Il faut pouvoir revendiquer une doctrine avec une visibilité sur la scène internationale. Il faut avoir une volonté de maximiser ses avantages à la fois économiques et sécuritaires. Et il faut être en mesure de donner un intérêt aux grandes puissances et donc de faire, en quelque sorte, monter les enchères entre des grandes puissances extérieures qui auraient un intérêt dans la survie et le bien-être économique de ce pays. Pour être multi-aligné, vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Encore faut-il que plusieurs États aient envie de vous donner des œufs en quelque sorte. Donc quand on est l'Inde, on peut se permettre d'être multi-aligné puisqu'on peut effectivement conclure des contrats d'armement avec la Russie d'un côté, tout en contractualisant avec la France et en étant impliqué dans une coopération stratégique étroite avec la France. C'est le cas aussi quand on est l'Indonésie, qui a des partenariats, des investissements très importants, aussi bien chinois que français que états-uniens. C'est le cas des pays du Golfe. C'est le cas d'un certain nombre de puissances moyennes sud-est asiatiques également. C'est le cas de plusieurs pays d'Amérique latine. Le Brésil ferait partie des grands multi-alignés latino-américains. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes le Cambodge ou le Laos et que vous êtes dans une relation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Donc il faut un certain nombre de ressources qui peuvent être soit politiques, soit économiques, soit stratégiques.
Mais du coup, le multi-alignement, c'est pour éviter d'être dépendant de la Chine ou des États-Unis ?
Alors, dans un contexte où la concurrence la plus visible aujourd'hui, et particulièrement dans la région Indo-Pacifique, c'est effectivement la compétition entre la Chine et les États-Unis, oui, mais un grand nombre de pays se revendiquent d'une politique non alignée également pour ne pas prendre parti dans le contexte du conflit en Ukraine, ou pour prendre parti sur la question du respect du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais continuer à entretenir des relations avec la Russie tout en condamnant son invasion militaire de l'Ukraine.
Russie, quand même.
Donc, en fait, c'est vis-à-vis des thématiques ou des États qui font l'actualité internationale. Encore une fois, ce n'est pas une posture dans l'absolu, c'est plutôt un refus du politique et c'est une affirmation de sa capacité à ne pas prendre parti, à ne pas faire de choix dans le contexte des relations internationales contemporaines et donc à maximiser son intérêt.
Quand on regarde l'actualité, Delphine Alès, finalement, est-ce que les États-Unis de Trump font pas eux aussi à leur tour du multi-alignement? C'est-à-dire qu'ils parlent plus d'alliés mais de partenaires. On a l'impression qu'ils résonnent vraiment au cas par cas. Alors il y a plus d'éthique, il y a même plus d'idéologie évidemment. C'est du multi-alignement finalement.
Ils font du partenariat opportuniste. Je le définirais plutôt comme ça parce que les États ou les dirigeants d'États qui revendiquent aujourd'hui une politique multi-alignée, encore une fois, sont plutôt dans une situation d'admettre leur statut de puissance moyenne et de considérer
c'est
qu'ils ont des choix
à faire. Dominante.
C'est difficile de revendiquer à la fois un statut de dominant et de dire qu'on est aligné ou multi-aligné.
Il y a une phrase qui illustre bien le multi-alignement qui nous vient de l'Indonésie, c'est 1000 amis, 0 ennemi. Dans un monde comme celui qu'on connaît actuellement, c'est possible ça ?
C'est effectivement, c'était le slogan de la politique étrangère de l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono, qui avait ce slogan consistant à dire « on ne choisit pas ». C'était une façon d'introduire effectivement une évolution potentielle de ses relations internationales avec des États vis-à-vis desquels il était plus difficile pour l'Indonésie d'entretenir des partenariats. Donc c'était une façon de parler aussi à son opinion publique. Et c'était la manière qu'avait Yudhoyono d'actualiser le non-alignement historique de l'Indonésie. En disant, à l'époque, il s'agissait de tracer une troisième voie entre les deux camps de la guerre froide en marche. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est devenu multipolaire ou en voie de multipolarisation, dans lequel on a plutôt des alliances ou des partenariats fluides, d'ailleurs, que des alliances. Et l'affirmation de souveraineté dans les années 2000, ou à partir des années 2000, passait plutôt par cette revendication d'autonomie stratégique.
Est-ce que multi-alignement, c'est aussi une histoire de relations personnelles entre les chefs d'État ?
Alors ça peut à court terme, mais dans ce cas-là, ça n'est pas un label ou une doctrine comme le revendique aujourd'hui l'Inde et l'Indonésie. En revanche, ça peut faciliter effectivement les choses si on regarde ce qu'est aujourd'hui le rôle que joue l'Arabie Saoudite.
C'est ça, Trump qui appelle quand même MBS dès qu'il a été élu, ça veut dire quelque chose.
Tout à fait, ça repose sur une relation qu'ils ont effectivement entretenue dès la première présidence de Donald Trump. Mais ça n'est pas ça qui forge le cœur du concept.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez du multi-alignement ? Pensez-vous que la France devrait passer au multi-alignement ? Quentin, en tout cas, est parti vous interroger sur cette notion. Forcément, en plus, avec ces douces températures, les gens ont dû adorer parler géopolitique avec vous, Quentin.
En règle générale, qu'importe le sujet, les gens adorent discuter avec moi. Comme Martin, ça dépend. Géopolitique, c'est pas toujours le cas. Comme Martin, qui me confie ne pas faire grand-chose dans la vie, à part dépanner les gens qui galèrent en informatique. J'ai laissé votre carte, Mathieu.
Vous avez bien fait.
Alors Martin, que pense-t-il de notre mot du jour ?
Multi-alignement. Alors, je connaissais le non-alignement, mais ça, c'est nouveau pour moi. Et on peut traiter avec la Chine, la Russie, comme avec les Occidentaux.
C'est cette idée où il n'y a plus de bloc ouest, bloc est, quoi.
Ouais, je vois très bien.
Nous parlons de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Arabie Saoudite. Pour lui, ces pays essaient d'être multi un peu dans tous les domaines en ce moment.
C'est parce qu'ils voient une opportunité aussi que les puissances traditionnelles sont en perte de puissance, tu vois. Pourquoi c'est l'Arabie Saoudite qui organise des discussions plutôt qu'une puissance occidentale, tu vois, pourquoi c'est le Qatar qui organise les discussions entre le Hamas et Israël et pas un autre pays, alors qu'avant, tu vois, il y avait les accords d'Oslo dans les années 90. Voilà, je parle toujours du conflit israélo-palestinien. C'était plutôt géré sous l'égide des États-Unis, tu vois.
Le monde bouge. Et il bouge tellement vite que cet étudiant fait quelques foulées pour me rattraper sur le boulevard et me taper sur l'épaule.
Vous êtes Quentin Lui, Zoom Zoom Zen, c'est ça? Avec Mathieu Noël, bien sûr, tous les après-midi, 16h-18h.
Oh là!
Quel est votre prénom à vous?
Benjamin.
Benjamin, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis doctorant en paléoanthropologie.
Et voilà, un doctorant, c'est un public à notre image.
Oui, c'est vrai,
il faut le dire. Il est très curieux de connaître le mot que je fais lire dans la rue aujourd'hui.
Multi-alignment.
Ok. Tu peux le dire en français. Hein.
Multi-alignement. Ouais, c'est vrai.
De quoi on parle ?
Je sais pas. C'est Cyril Lacarrière qui voulait inventer celui-là ?
Ah,
presque.
Okay. Ah ouais.
Ouais, on joue sur plusieurs tableaux, quoi. On va là où ça nous arrange. Pourquoi pas, hein ? Ah bah non, la France est plus alignée avec Trump. Trump n'est pas aligné avec les intérêts européens. Il est aligné uniquement avec les intérêts américains. Bah Trump qui veut taxer à 200% le vin, les champagnes, tout ça. 200%, ouais, ça...
Qu'est-ce qu'on lui répond ?
Qu'est-ce qu'on lui répond ? Buvez de l'eau. Hein.
On va aller boire nous ?
Ouais, voilà.
Je passe devant le cinéma MK2 Quai de Seine dans le 19e arrondissement de Paris. Et là, j'arrête Daniel.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que vous allez voir au ciné ?
Je vais aller voir L'Attachement. Avec Valéria Bruni-Tedeschi.
Un film France Inter, évidemment. Alors Daniel, est-ce qu'elle voit ce que c'est, elle, le...
Multi-alignement. C'est politique, oui. Entre l'Est, l'Ouest, tout ça. Bon.
Nous, par exemple, on s'est plutôt aligné avec les États-Unis. On était bloc Ouest.
On était, oui.
On peut le dire.
On l'est plus. On va pas se laisser avoir avec les taxes, les super taxes.
Vous avez vu ce qu'ils ont répondu, le Canada ?
Qu'est-ce qu'ils ont répondu, non ?
Ils allaient couper l'électricité.
Ah oui, c'est une bonne idée. Faut l'arrêter celui-là. Hein. Voilà, on éteint la lumière. Et on éteint le son aussi.
Marcel lui passe un coup de vent. Il me raconte qu'il bosse dans le numérique. Qu'est-ce que ça raconte de notre époque, ce multi-alignement ?
Bah, ça raconte que c'est la fin des empires et que le monde est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et que dans notre petite fenêtre ou dans notre petite radio très franco-française...
Nous, on est plutôt alignés, nous.
Malheureusement, on est aligné comme le petit capot est aligné à son chef de la mafia, c'est-à-dire le grand Uncle Sam. Ça fait longtemps qu'on aurait dû être moins aligné parce que là, on est des esclaves des GAFAM et on est des esclaves numériques. On n'a aucune indépendance numérique. Et ça peut poser un problème demain, qui sait.
Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur habillé d'un long manteau en cuir et d'un chapeau de cow-boy. Je lui parle de ce multi-alignement. L'intérêt est ici de tisser des relations économiques avec le plus de...
Des relations économiques, ça, on revient toujours là-dessus. Toujours le fric. Il n'y a que ça qui compte. L'humanité, on s'en fout, on s'est assis dessus. Les valeurs humaines, on s'est assis dessus pour le remplacer par cette valeur-là.
Je lui parle de l'actualité, de notre alignement, des États-Unis, de Trump.
Ah, Trump, c'est un malade de toute façon. C'est un malade mental, ce type-là. Quand je vois ce monde qui est de plus en plus pourri par ça...
L'argent.
D'ailleurs, notre monde, c'est un monde qui est voué à l'échec, qu'on le veuille ou non. Et on est pratiquement vers la fin.
Sur ces paroles réjouissantes.
Réjouissantes.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci pareillement, également pour vous.
On voit bien que l'ancien monde fait de deux blocs commence à être loin, avec de nouveaux acteurs comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Arabie Saoudite. Mais ce qui reste au cœur des relations pour vous, aussi multiples soient-elles, c'est effectivement l'argent, la finance et les affaires. C'est le levier qui encadre et régit l'ambiance générale. Et vu comme on est parti, on va se faire aligner sévère.
Delphine Alès, j'écoutais ce micro-trottoir. Est-ce que c'est la fin de l'ONU? Mes parents travaillaient à l'ONU. Est-ce que le multilatéralisme a encore sa chance demain? J'ai l'impression que ça me fait peur, cette histoire de multi-alignement. J'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a plus aucune idéologie. Alors, l'idéologie avait ses défauts, mais parfois, il y avait des idées qui pouvaient relier des pays, des idées parfois humanistes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que des critères financiers.
Alors... Peut-être pour clarifier et revenir sur ce qu'était effectivement la colère qui s'exprimait dans le micro-trottoir, le multi-alignement, ça n'est pas une contestation de l'ordre existant. C'est plutôt conservateur, le multi-alignement. Il n'y a pas cette colère exprimée par les acteurs, les États qui aujourd'hui se revendiquent du multi-alignement, puisqu'au contraire, c'est plutôt ceux qui bénéficient du statu quo sur la scène internationale. Ça, c'est un premier point qui me paraît important parce que on n'est plus du tout dans la logique contestataire qui pouvait être celle de Bandung. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que c'est la fin de l'ONU? C'est la fin de l'ONU telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une organisation qui est en demande évidente de refondation. Maintenant, l'ONU, il y a plusieurs choses dans l'ONU. Il y a l'ONU intergouvernementale, celle des États, celle du Conseil de sécurité qui est de toute évidence dysfonctionnelle aujourd'hui et que la présidence Trump rend encore plus dysfonctionnelle qu'elle ne l'était, si c'est possible jusque-là. L'ONU, ça n'est pas seulement ça. C'est aussi un théâtre dans lequel s'expriment les positions des États. C'est l'ONU de l'Assemblée générale, qui était plutôt celle qui correspondait d'ailleurs aux aspirations des États non alignés à l'époque. Une voix par État, reconnaissance de la souveraineté des uns et des autres et de valeurs universelles. Et puis c'est aussi l'ONU des organisations et des programmes qui ont leur propre agenda, qui continue à fonctionner, qui fonctionnera différemment. Ce qu'on voit, si on se penche sur les derniers votes à l'ONU concernant la situation en Ukraine, c'est qu'il reste une grande majorité d'États du monde, même en l'absence des États-Unis, qui continuent à considérer que la souveraineté, que l'intégrité territoriale et que le principe de non-agression sont des principes fondamentaux sur la scène internationale. Et l'Assemblée générale de l'ONU vote contre les États-Unis, mais avec une majorité des pays du monde pour la reconnaissance continue de ces principes-là.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
À l'heure d'ouvrir le Zoom Zoom Test, j'aimerais rappeler à ceux qui, la semaine passée, se sont livrés à des actes de tricherie d'une extrême gravité.
Elle a triché. Je la connais par cœur.
Mais je te jure.
Oui, c'était très bizarre. J'avais des soupçons.
Mais c'est fou.
Une enquête interne sera diligentée.
On m'a soufflé une réponse, j'admets.
C'est juste une manœuvre de Quentin.
Oui. Mais non, arrêtez, on lui souffle des réponses.
Quentin,
c'est un problème.
Quentin, c'est vraiment.
Il y a vraiment une sale ambiance dans cette
équipe. Manon, Quentin,
j'ai honte.
Je ne vous dirai qu'une chose, inspirée d'une citation de Roselyne Bachelot, notre invitée vendredi dernier. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme de vils tricheurs?
J'ai cru que c'était l'autre.
Non.
Tous à poil.
À poil Bachelot.
Roselyne.
Jouons, s'il vous plaît, sans gruger, au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des petites histoires derrière les grands traités internationaux. Vous connaissez certainement ces accords, mais comment ont-ils été conclus? Que s'est-il passé dans la coulisse? Est-ce que l'accord a été conclu de bonne foi ou au terme de magouilles dignes des pires heures du Zoom Zoom Test? On démarre en 1967 en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique sont lancés dans la course à l'espace. Cyril Lacarrière vient tout juste d'intégrer la NASA dans l'espoir de devenir 2 ans plus tard le premier homme à marcher sur la Lune. Et je le cite, leur faire la niaque à ces pourritures communistes.
Oh là là.
Hélas pour lui, il sera affecté non pas au service des vols habités, mais au service de la cantine. C'est lui qui, en 1969, aura l'idée de préparer un chili con carne à Neil Armstrong, juste avant le départ d'Apollo 11. Motherfucking Lacarrière, dira plus tard Buzz Aldrin. Bref, en 67, la tension a beau être maximale entre l'URSS et les États-Unis, les deux pays vont néanmoins réussir à signer un traité. Le traité de l'espace, qui consiste à ne pas s'approprier une autre planète, ne pas importer des armes nucléaires sur une autre planète, ou bannir la consommation de chili con carne en orbite.
B.
Pardon ?
B.
Oui, je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. Bonne réponse de Manon. J'aime vous guider vers la bonne réponse. Ce n'est pas de la tricherie, c'est de l'aide.
Oui, c'est mieux, oui.
C'est de l'aide.
Et oui, si Trump avait été au pouvoir en 67, on aurait déjà certainement plusieurs casinos sur Mars. Seulement voilà, à l'époque, les dirigeants américains et soviétiques avaient un peu plus de jugeote. Ils étaient arrivés à se mettre d'accord sur cette idée de faire de l'espace et des autres planètes une zone de paix. Donc interdiction d'utiliser des bombes atomiques ou de s'accaparer un bout de planète. Une sage décision pour l'humanité, avait commenté le Dalai Lama depuis Lhasa. Un cadeau débile à ces sales cocos, avait commenté depuis la cantine de la NASA. Mais voilà, dans les relations internationales, contrairement à Nicole Kidman, rien n'est figé. Et le traité de l'espace, elle s'est glissée là-dedans absolument. C'est dégueulasse. Ça doit être mon auteur Gérald Darnaud, parce que moi, très peu pour moi.
Elle est très belle.
Et le traité de l'espace sera complété 12 ans plus tard par quoi ? Le traité de l'espace 2, l'accord de coopération anti-invasion extraterrestre ou le traité sur la Lune ?
B.
C'est
Manon, toujours plus loin.
Non, mais le traité.
Non, vous avez répondu, Manon, l'accord de coopération anti-invasion extraterrestre. Et ça vous sera ressorti.
Non,
c'était le traité sur la Lune. Bonne réponse de Quentin, lui. Alors, le traité sur la Lune n'est pas une convention qui aurait été signée sur la Lune, mais bien un accord multilatéral établissant l'appartenance de tout corps céleste, y compris ses orbites, à la communauté internationale. Le traité dit ainsi que la Lune ne peut être utilisée qu'à des fins pacifiques et que toute activité doit y être conforme aux lois internationales, y compris la Charte des Nations Unies. Une belle époque de merde, vivement 2025, qu'on rigole enfin, déclarera prophétique Cyril. Oui, en 1979, on croyait encore aux vertus du multilatéralisme. Même s'il ne faut pas se voiler la face, ce traité sur la Lune n'a été signé que par 17 États, dont pas les États-Unis, pas la Russie et pas la Chine. Heureusement, à cette époque, le train de la négociation ne se fracasse pas toujours sur le mur de la guerre froide. Les ricains et les cocos, comme dirait Cyril, sont bien arrivés à s'entendre en 72 sur la limitation des armes nucléaires en signant le traité SALT I grâce à une technique que seuls les diplomates de haut vol connaissent, d'après vous, laquelle ? La technique dite de la murge ? La technique dite du shifumi ? Ou la technique dite du flingue sur la tempe ?
La A !
Ah.
Manon, c'est un cri du cœur.
Oui, je sais pas.
Ça a marché, la technique de la murge, pour vous, non ?
C'est drôle, ça. Bon, la réponse.
Mais c'est une bonne réponse de Manon.
Ah,
effectivement,
voilà.
Qui a toujours le nez creux quand on parle d'alcool. Effectivement, coup de génie. Coup de génie absolu. Les diplomates chargés des négos s'étaient mis d'accord sur une règle. Descendre une bouteille de whisky à chaque avancée dans les discussions. Ça met évidemment de l'huile dans les rouages.
Ah ouais, mais c'est chaud. Manon, c'est impossible, ça.
On est vraiment heureux, Manon, de vous avoir parmi nous. Mais si vous aviez su ça plus tôt, vous seriez peut-être aujourd'hui secrétaire général de l'ONU. Et le monde se porterait sans doute nettement mieux.
Avec du Porto. Oui. Ce serait bizarre.
Toujours un petit verre.
Et puis, il faut dire que
13.
Les réunions du Conseil de sécurité auraient une autre saveur.
Non mais franchement, faut arrêter avec ce son.
Le monde irait mieux.
C'est pas possible.
Remontons le temps, direction à présent 1651. Les Pays-Bas, l'autre patrie de Manon, sont opposés aux îles Sorlingue, territoire britannique. Et si je vous en parle, c'est que l'accord signé a une petite particularité. Le vainqueur du conflit a été tiré à pile ou face. Le traité a mis 3 siècles à être signé. Où le traité ne comportait que des dessins car les deux signataires ne savaient ni lire ni écrire.
B.
C.
Vous dites quoi,
B.
B. Il a mis 3 siècles à être
signé.
C'est long, 3 siècles,
ouais.
Quentin, quand même, pour signer un traité. Manon ?
C'est les dessins. Bon.
Il ne savait pas écrire les signataires. Très bien. Bonne réponse de Quentin, lui. Ah, j'ai oublié de vous donner l'indice. Décidément, dès qu'il y a un changement dans ce quiz, je suis perdu.
Ouais.
Le quiz, l'indice, c'était le conflit s'appelle Drihonder, Dvishonder, Distarige, Orlog.
C'est bien qu'on l'ait maintenant.
Ouais, vraiment, c'est génial.
Je vous dis, quel dommage que vous ne parliez pas néerlandais, puisque l'indice était dans la réponse, puisque ce mot que je viens de prononcer signifie, cette phrase plutôt, la guerre de 335 ans. C'est la plus longue guerre de l'histoire de l'humanité, mais la moins meurtrière aussi, puisqu'aucun coup de feu n'a été tiré. Dès le début des hostilités, l'amiral anglais a retiré ses troupes et la flotte hollandaise est rentrée chez elle. Pas un mort. Statu quo, sans qu'aucun accord ne soit signé, l'anomalie ne sera découverte par des historiens que 335 ans plus tard, et l'accord de paix signé donc en 1986, j'avais 4 ans. Comment ça ? 2-2, je ne supporte pas les situations d'égalité.
Mais ça arrive.
Victoire exceptionnelle de Quentin,
oui,
aujourd'hui.
Bravo.
On ne sait pas pourquoi.
Comme ça.
Merci à tous.
C'est comme ça, soir. Quentin. Vous méritez de temps à autre de gagner.
De briller. C'est lundi. Ouais, ça va vous mettre de bonne humeur.
Il y avait les non-alignés. Maintenant, il faudra compter sur les multi-alignés. Zoom sur cette notion de multi-alignement avec la chercheuse en sciences politiques et vice-présidente de l'INALCO, Delphine Alès. Delphine, est-ce que la France pourrait s'inscrire dans ce système de multi-alignement? Est-ce que la France pourrait être multi-alignée ou bien on est encore un peu trop puissant pour jouer les multi-alignés?
C'est pas que la France est trop puissante pour jouer les non-alignés, c'est qu'elle a encore un agenda politique sur la scène internationale. Les États qui revendiquent aujourd'hui une politique extérieure multi-alignée font ce choix et affirment que leur politique est de ne pas choisir entre leurs partenaires potentiels. Ce qui peut amener à des situations dans lesquelles on ne choisit pas, dans des situations comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'est pas, pour le moment, le registre qui est celui de la France. En revanche, la France a intérêt et joue ce rôle qui est d'être une forme de catalyseur de la souveraineté d'États qui se revendiquent eux-mêmes comme étant multi-alignés. Et c'est pour ça qu'elle intensifie ses relations avec l'Inde ou avec l'Indonésie, multiplie les partenariats de coopération, notamment militaires, avec ces États. Et ça peut contribuer à la mise en œuvre de sa politique extérieure et de ses intérêts, puisque ça vient inciter aussi ces États à ne pas rester dans le giron de partenariats avec des pays qui prône l'adhésion au multilatéralisme et à l'ordre international libéral.
Mathieu en parlait dans son teaser tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a de la place pour les valeurs dans le multi-alignement ou seul l'intérêt prévaut ?
Alors, si on s'en tient stricto sensu à la notion, seul l'intérêt prévaut, l'intérêt aussi bien stratégique, sécuritaire que économique.
Mais comment ça peut être pérenne ? Parce que, par exemple, pour prendre le cas de l'Inde, j'ai l'impression que quels que soient les gouvernements, quelle que soit la personne qui dirige l'Inde, ils sont d'accord, il y a une sorte de consensus autour du fait qu'on est un pays multi-aligné, c'est comme ça qu'on navigue dans le monde des relations internationales. Mais il pourrait y avoir, dans d'autres pays, il pourrait y avoir un changement de gouvernement qui fait que les gens se disent « non, les valeurs ça compte, nous on n'a pas envie de soutenir la guerre en Russie, enfin la guerre en Ukraine de la Russie ». C'est possible aussi de changer comme ça, c'est un pays pas multi-aligné pour toujours.
Bah, c'est un peu toute la difficulté de la notion qui est très plastique, on met un peu ce qu'on veut derrière, comme c'était le cas pour le non-alignement. Le non-alignement a toujours été revendiqué par tous les gouvernements indiens ou tous les gouvernements indonésiens au fur et à mesure des changements d'alignement. De fait, quand l'Indonésie est passée du gouvernement de Sukarno à celui de Suharto, elle a basculé d'un regard qui était très fortement vers l'Est et d'un partenariat stratégique très fort avec l'Union soviétique et la Chine vers, au contraire, le fait de se tourner vers les États-Unis. Simplement, on a continué à revendiquer la notion de non-alignement à l'époque en la définissant tout simplement autrement et en disant, pour affirmer notre souveraineté, il faut qu'on se développe sur le plan économique, donc on va se rapprocher du camp occidental. On met un peu ce qu'on veut derrière cette notion.
Pardon, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas être multi-aligné ou se déclarer comme tel si on fait partie déjà d'une alliance. On peut considérer l'Union européenne comme une giga-alliance. Aucun pays, même une puissance moyenne de l'Union européenne, ne peut jouer la carte du multi-alignement parce qu'elle est dans l'Union européenne.
Tout à fait, ce serait difficilement crédible. Néanmoins, ils peuvent entretenir une politique ambiguë. C'était le cas de la Hongrie, par exemple.
Ah oui, c'est vrai que la Hongrie se distingue un peu
là-dessus. Se distingue effectivement de ce point de vue-là. C'est discursif. Encore une fois, c'est une notion qui est très plastique. Elle est très floue. On met un petit peu ce qu'on veut derrière. Et ça permet de justifier des choix qui ne correspondraient pas éventuellement à la ligne majoritaire.
Et ça permet de faire des émissions de gai savoir. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir l'autre personne à suivre.
Oui, je vous présente Mohamed Ben Salman. Il a 39 ans, il est saoudien et c'est le prince héritier du pays. En attendant, il est le premier ministre depuis 2022. On l'appelle aussi souvent par ses initiales MBS. On l'a dit pendant cette émission, on l'a évoqué, l'Arabie saoudite fait partie de ces pays pour qui le multi-alignement devient une véritable arme politique et économique, un choix stratégique impulsé justement par MBS. Comme certains autres dirigeants, Mohamed Ben Salman mise sur l'autonomie de son pays et navigue entre les grandes puissances pour maximiser les intérêts de l'Arabie saoudite. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, il reçoit le président chinois Xi Jinping en grande pompe à Riyad pour sceller des accords économiques et énergétiques majeurs. Quant à la Russie, Riyad et Moscou collaborent via l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPE. De l'autre côté, MBS a de très bons liens avec Donald Trump. C'est d'ailleurs la première personnalité politique que Trump a appelée après son investiture. En 2016, l'Arabie saoudite a été la destination de son premier voyage officiel. MBS compte investir au moins 600 milliards de dollars aux États-Unis dans les 4 prochaines années, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Mais ce que disent les observateurs géopolitiques, c'est que MBS n'est plus dans l'obéissance avec Washington. Certes, il continue d'acheter des armes américaines et de coopérer sur la sécurité, mais il résiste aux pressions pression. Mohamed Ben Salman ne veut plus que Riyad soit un simple exécutant des ordres de Washington, d'où le choix du multi-alignement. MBS est vu comme un personnage complexe et controversé, on le sait. D'un côté, il veut moderniser l'Arabie Saoudite, en particulier à travers son programme Vision 2030, un plan qui a pour objectif de diversifier l'économie saoudienne, de réduire sa dépendance au pétrole et de promouvoir des réformes sociales, entre guillemets. Mais de l'autre côté, MBS a été accusé de réprimer des opposants politiques et d'avoir un pouvoir de plus en plus absolu. L'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 a particulièrement entaché son image à l'international, même si le Premier ministre saoudien a nié toute implication. De nombreuses preuves suggèrent que des agents saoudiens sous son autorité ont tué le journaliste dissident au consulat saoudien d'Istanbul.
Oh, des accusations graves que vous portez là cet après-midi.
Ce n'est pas moi, hein.
Manon, faites attention. Delphine Alès, elle va être payante la stratégie de MBS ou elle peut se retourner contre lui? C'est un exemple type du multi-alignement actuel?
Alors, on peut considérer effectivement que l'Arabie Saoudite est dans une situation de multi-alignement. C'est ce qui est revendiqué effectivement par sa diplomatie. Ça se manifeste d'ailleurs dans d'autres domaines encore. Il y a une forte ambiguïté de l'Arabie Saoudite sur l'entrée dans les BRICS, avec une inquiétude de la part de ses dirigeants vis-à-vis du fait de rejoindre une coalition qui est considérée comme étant anti-occidentale. Il y a une autre ambiguïté qui est maintenue sur la possibilité ou pas de rejoindre un jour les États signataires du plan Abraham en reconnaissant Israël. Donc, pour le moment, il y a ce jeu qui est dans l'intérêt effectivement du régime saoudien, un petit peu dans la lignée de ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui a une position qui est très conservatrice sur la scène internationale. Tant que l'ordre international reste ce qu'il est, les autres puissances ont intérêt à entretenir des relations avec l'Arabie saoudite, et on le voit bien avec l'arrivée au pouvoir de Trump et l'ampleur des investissements saoudiens qui ont été promis par MBS aux États-Unis, jusqu'à 1 000 milliards de dollars.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il nous revient purifié d'un week-end sous le signe de Jésus-Christ, notre Seigneur, à Chartres. Pèlerinage forcé, il faut le dire, en effet, choqué par ce qu'il a entendu en confession, notamment ses recherches sur le bon coin étonnantes. Qui recherche des caleçons d'occasion sur le bon coin?
Des shorts.
Ça ressemblait fort à un caleçon. L'abbé Chibra.
Sur le monsieur, oui.
Son confesseur, l'abbé Chibra, a obligé Pierre Courade à aller se recueillir dans la cathédrale de Chartres afin, je le cite, de se faire pardonner toutes ces heures passées à scroller sur le profil Hugo Clément Sport. Pierre, maintenant que vous êtes plus ou moins purifié, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui en une minute chrono. Vous pouvez enlever les chants grégoriens.
Et aujourd'hui, le multi-alignement, c'est le nom que l'on donne aux anciens pays non alignés qui ont décidé de choisir la solution offensive. Fini l'espèce de neutralité politique de la guerre froide, ni Est ni Ouest, place à l'alignement à tout va, russe, américain, chinois, européen. On ne met plus tous ses œufs dans le même panier, on ménage la chèvre et le chou. Le multi-alignement, c'est une succession d'expressions désuètes, mais qui a pour intérêt majeur de pouvoir s'adapter en toutes circonstances, sans avoir à retourner sa veste. Notre invité pour nous éclairer sur ce sujet, c'était Delphine Alès, vice-présidente de l'Institut National des langues et civilisations orientales. Elle nous a rappelé que le concept de multi-alignement a été forgé en Inde, l'autre patrie du non-alignement, l'Inde qui se retrouve à la fois dans une alliance avec la Chine et une autre où elle tente de se prémunir du danger que représente la Chine. C'est l'exemple parfait du multi-alignement. Il ne faut pas insulter l'avenir, surtout quand il est si incertain. C'est d'ailleurs pour cette raison, face aux impérialismes qui aiguisent leurs appétits, que les puissances moyennes tentent de se frayer un chemin. Un non-choix politique pragmatique, diplomatiquement et opportuniste économiquement. C'est la définition qu'en fait notre invité. Seul l'intérêt prévaut. Avec le non-alignement, les États se serraient les coudes. Avec le multi-alignement, c'est chacun pour soi.
Bravo Pierre, vous êtes bien purifié en tout cas. C'était vraiment très très précis.
Grâce à Notre-Dame de Chartres.
J'ai pas compris toutes ces histoires d'anchois, mais c'était intéressant. Marine Léonard, vous êtes en colère cet après-midi.
Le multi-alignement, ben voyons, mais de qui se moque-t-on? Ça va Cyril, t'es pas trop gêné aux entournures? Même le culot prend des notes à ce stade? Non, mais la dernière fois qu'on m'a demandé mon avis dans cette équipe, c'était pour savoir si je préférais passer le mardi ou le jeudi. Et finalement, on m'a mis le lundi. Voilà, hein, même quand je bossais en entreprise, on me respectait plus. C'est quoi le prochain sujet Cyril? Les chèques vacances qu'on n'a pas, les RTT, le bonheur, allons-y. C'est quand même tragique d'avoir théorisé un truc qui s'appelle juste la paix. Non mais, hé les gars, venez, on essaye de bien s'aimer, de se comprendre et se mettre dans les chaussures les uns des autres. Et on va donner un nom bien compliqué, comme ça Mathieu Noël, il fera une émission dessus. Bon, après, j'ai découvert avec joie qu'il y a des hommes qui arrivent à se multi-aligner sur cette planète. Belle surprise. Hein. Mon mari ne sait déjà pas se coordonner avec lui-même. Ah ben, on est sur quelqu'un qui, quand il éternue au milieu de sa phrase, il la recommence depuis le début. Hein. Voilà, déjà que les histoires n'étaient pas passionnantes la première fois. Pour peu qu'on soit chez ses parents, je dois aussi me taper les histoires de sa mère. Il faut vous dire qu'ils sont bien tous multi-alignés sur ma perte de temps. Tu fous Poutine là-dedans, il rend les armes. Pardon, prenez l'Ukraine, prenez ma femme tant que la vieille, elle ferme sa gueule.
On est à Moscou, à Bamako. J'ai pas bien compris cette imitation.
Je me suis entraînée de longues heures.
Oui.
Apparemment, il faut que j'enchaîne. Apparemment, il y a des pays qui miseraient sur le multi-alignement pour résoudre les conflits mondiaux. Mon Dieu, alors, j'ai pas fait Sciences Po, mais j'ai quand même l'impression que c'est une technique de lâche, ça, non ? Je sais pas, on dirait mon ex Arnaud. Alors, j'ai pas osé la vexer, tu comprends. Donc, bah oui, on a couché ensemble, en fait. L'Inde et la Chine pratiquent cette méthode. Ils sont là, oh non, miskine l'Ukraine. Mais du coup, Vlad, tu nous le fais à combien cette année, le baril ? Après, évidemment que l'Inde et la Chine, ils se multi-alignent. Déjà, ils détiennent 99% de la production de fringues mondiales. Perso, ils n'ont qu'un mot à dire et moi, je me mets à plat ventre avec ma robe Zara et mes pompes Massimo Dutti. Un geste de la main et je leur file mes gamines à l'usine. Non, mais moi, j'ai pas assez d'argent hein, pour m'acheter des vêtements produits par des gens qui ont une carte vitale, je suis désolée. Cette chemise, elle m'a été prêtée, je dois la rendre après l'émission. Me jugez.
Tant mieux.
Non. Me jugez pas moi, jugez Mathieu Noël. Il est en total look ami Paris depuis la rentrée. Ça va, Mathieu ? Joli pull. On a touché les droits d'auteur ce mois-ci.
Certes.
Tout va bien. T'as pas honte ? Regarde la pauvre Manon, la cabine en haillon. Non, mais t'inquiète, ma belle. On se fait un panier AliExpress. Dès que j'ai fini cette émission, c'est maman.
Je veux pas ta chemise.
Arrêtez, c'est un placement de produit. Alors. Le multi-alignement géopolitique, c'est donc l'art d'être d'accord avec tout le monde. Ça s'appelle également la polygamie institutionnelle. Purée, enfin, on reconnaît les vertus de cette pratique. Il aura fallu que l'Ouzbékistan la pratique pour qu'on ait enfin le droit de se taper le comptable au sixième étage. Je plaisante, il n'y a pas de comptable ici, on joue avec l'argent des Français. Mais moi, je l'ai toujours dit, hein, le pluralisme, c'est ce qui permet de prendre de bonnes décisions. Quand j'étais célib, je datais 5 mecs en même temps. J'ai appelé ça la diversification du portefeuille. Non, je vous promets. Alors, me regarde pas comme si j'étais la dernière des traînées. Je vous rappelle que vous, les hommes, vous faites ça en étant mariés. Hein. Vous allez me dire tout ça pour finir avec un mec qui confond le lave-vaisselle et le lave-linge. Bon, j'ai pas dit que la méthode était infaillible. En fait, je viens de me rendre compte que je faisais du multi-alignement sans le savoir. J'étendais ma zone d'influence, comme ils disent dans Le Monde diplomatique. C'est un magazine pour les grands Quentin. Allez, je vous laisse. Faut que j'aille renouveler mon abonnement. Sinon, je vais encore faire des analyses politiques qui sont dignes du Gorafi.
Merci beaucoup, Marine Nardi. Très joli chemisier. On plaisante évidemment.
Oui, t'es
dans un espace de Il est magnifique. Non, mais c'est un placement produit. Soutenons-la. On vous retrouve,
c'est
Marine,
autorisé.
La semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et vous avez une bonne nouvelle puisque vous ouvrez une tournée des Zéniths, carrément. Wow. Voilà. 2027 pour votre spectacle Mauvaise Graine, billetterie pour 2026 et 2027 sur marineleonardi.com, car c'est complet pour 2025. Et déjà,
et bien sûr.
Vous porterez ce chemisier sur scène.
Évidemment, je l'adore.
Vous chez vous, rien du tout. Vous chez vous, d'abord, je vais poliment remercier notre invité surtout. Mais qu'est-ce qui m'arrive en ce lundi ? Delphine Alès, merci beaucoup de nous avoir initiés aux joies du multi-alignement. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'INALCO. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous.
Zoom Zoom Zen.